France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face. Et ce matin, est-il possible de ne pas haïr son ex? Peut-on vraiment se séparer sans se détester? Pour certains, la réponse est dans la question. Est-il possible d'appréhender son ex de façon sereine? Évidemment, quand la relation n'a pas été toxique ou violente, rester ami avec son ex, oui, mais dans quelles conditions? Que faire de la haine si elle subsiste? Et que faire quand l'ex est un peu trop envahissant, voire plus? Élément de réponse au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Connard.
Connasse. Pauvre conne.
Non mais je rêve. Non mais maintenant mon fils sort sans cravate.
Oui alors là ta gueule Brigitte, parce que la dernière fois t'avais oublié sa ventoline. Sur un truc comme ça je te fais sauter tes week-ends.
Ok. Et elle est habillée comme une pouffe et personne lui dit rien.
Mais la pouffe elle te dit merde pauvre chure.
Eh ben voilà, c'est reparti pour les insultes. Non mais t'as vu dans quel état tu me rends mes enfants? Je vais faire constater leur vulgarité par un huissier, c'est toi qui vas perdre ton droit de garde. Enculé va.
C'est ça, sale pute.
Pauvre con.
Mal baisé.
Ah ouais, par toi certainement, sale merde.
Mais rien à foutre, j'entends pas, je t'entends pas.
Dégage, je veux plus te voir, dégage.
Mais oui, mais t'as raison.
Allez, va chez ta connasse. Ah, enfin.
Et voilà deux ex qui ne partiront pas en vacances ensemble, Denis Podalydès et Valérie Lemercier dans le film Neuilly, sa mère en 2009. Bonjour Cécilia Como.
Bonjour Ali.
Habituée de cette émission, vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple et on vous doit Le couple parfait n'existe pas, publié en 2022.
Je ne sais pas si ça fait des heureux qu'on me doive le fait de détruire les espérances et les idées et les idéaux.
Bonjour Camille Roger.
Bonjour Ali.
Également habituée de cette émission, vous êtes psychologue et thérapeute de couple et vous aviez publié en 2024 chez Duno Être un couple épanoui. Bonjour Claude Parizeau.
Bonjour Ali.
Vous êtes expert en thérapie de couple et vous êtes l'auteur de Réenchanter son couple chez Erol. Alors être ami ou pas avec son ex, c'est vraiment un sujet qui divise hein, au sein de l'équipe. Deux camps s'affrontaient au bureau hier. Pour les uns, par principe, l'idée n'est même pas envisageable de rester ami avec son ex, alors que les autres, pour d'autres, il est tout à fait possible de ne pas haïr son ex et de devenir ami. Hors cas, évidemment, on l'a dit, de relations toxiques ou violentes. Camille Rocher, le monde se divise ainsi concernant les ex, de façon un peu schématique et peut-être un peu caricaturale.
Oui, et je crois que ce qui se confronte aussi, c'est le principe d'idéal et le principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'aimerais, pouvoir rester amie, pouvoir garder du lien, voilà. Et en fait, la réalité qui fait qu'à chaque fois qu'on se revoit et qu'on se resépare, je ressouffre. Et ça, parfois, ça génère une confrontation. Sachant qu'il faudrait aussi qu'on distingue couple avec enfant, qui sont obligés de rester un couple parental, et couple sans enfant, où là, la question est différente.
Cécilia Como.
Moi, je crois que les deux camps, dirait-on, sont surtout être quitté ou quitté. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit si on a pris la décision de se séparer, qui d'ailleurs souvent est une décision lente, qui mûrit de manière assez secrète, il faut le dire, au sens où ça se passe à l'intérieur de quelqu'un et que la découverte en face est souvent assez brutale. Et tout va... Évidemment, on n'a pas du tout les mêmes conséquences si on a décider de mettre fin à une relation ou si on est sorti d'une relation. Je pense surtout que c'est ce qui va faire la différence quand vous êtes... Moi, très souvent, les gens qui quittent ont envie de rester amis. Parce que pour apaiser leur culpabilité, ils ont envie de garder un lien. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour la personne qui est quittée.
Claude Parizeau.
Oui, je partage tout à fait ça. Ça dépend. Moi, si je prends rien que mon exemple, des fois j'ai pu rester ami, des fois non. Et ça dépend de tellement de facteurs. Déjà, c'est prendre responsabilité. Si on prend responsabilité dans ce qui s'est passé, qu'on n'est pas dans l'accusation, ça va être plus simple de rester ami. Sinon, ça va être assez compliqué.
Mais il y en a qui sont dogmatiques. Même si la relation a été bonne, je ne veux pas rester ami avec mon ex. Qu'est-ce que ça raconte, Cécilia Como?
Parce que je pense qu'il y a... je dis souvent que la relation amoureuse... elle est quand même très différente de la relation amicale. On dit souvent, c'est mon meilleur ami ou j'aimerais qu'il soit mon meilleur ami en amour. Moi, je pense que c'est vraiment deux choses différentes. D'ailleurs, je dis souvent aux gens qui sont amoureux, c'est pas mal d'avoir à côté un meilleur ami ou une meilleure amie pour un petit peu voilà, élargir vos champs d'amour, de se dire que il n'y a pas qu'une personne qui peut tout me fournir. Et il y a donc il y a des gens qui considèrent effectivement que la relation amoureuse est tellement particulière qu'elle ne pourra pas en fait se transformer en autre chose. La relation d'amitié, c'est une relation d'amour sans érotisme et sans sans désir sexuel. Enfin, pour certains, ça s'infiltre quand même. Donc, il y a des gens qui considèrent que j'ai pu être très amoureuse de quelqu'un, mais si vous m'aviez demandé si j'aurais choisi cette personne comme meilleure amie, la réponse est non.
Camille Rocher.
Moi, je dirais qu'il faut aussi regarder ce que veut dire ce lien d'amitié, parce qu'on voit beaucoup de couples, et c'est là où ça peut devenir un peu toxique, où en fait, ce n'est pas que j'ai envie de rester amie avec toi, c'est que j'ai envie de rester un peu ton sauveur. Et ça, on en a beaucoup, des relations où en fait, il y a encore du lien, ce qui fait qu'on va pouvoir venir à se détester, parce qu'il y a encore un lien très fort. Et donc, on n'arrive pas à se détacher, parce que ce qui nous rapproche, c'est vouloir venir t'aider. Donc, dès que j'ai un problème, je t'appelle. Et en fait, dès que tu restes à m'aider, mais que tu ne vas pas plus loin à me dire que tu m'aimes, tout ça, de nouveau, je t'en veux. Donc, c'est vraiment ce fameux triangle de Cartman qu'on connaît par cœur.
C'est quoi le triangle de Cartman?
C'est ce jeu psychologique qui se joue entre, ça peut jouer entre deux personnes, sauveur, victime, persécuteur. Et donc, en fait, j'attends de toi que tu sois mon sauveur. Finalement, quand tu es mon sauveur, je suis un petit peu une victime. Et au final, quand tu commences à me dire que, maintenant je repars, voilà, je t'ai donné ce que tu voulais, maintenant je repars, et là tu me persécutes. Et donc, en fait, c'est un jeu comme ça qui tourne, et qui fait que le lien qu'on dit amical, en fait, est très borderline, parce que du lien de sauveur, j'en attends autre chose.
Claude Parizeau.
Oui, et puis pour pouvoir être ami après dans la relation, pour moi, il faut laisser un temps, le temps du deuil. C'est dur de passer directement de l'un à l'autre. Et aussi, on parle pas souvent de ça, moi qui suis un homme, je travaille beaucoup avec le masculin, aussi avec les hommes, c'est différent si on est un homme ou une femme. Dans la raison pour laquelle on veut rester, je l'ai entendu là, c'est que des fois, les hommes veulent rester en lien parce qu'ils ont un peu de la culpabilité de ne pas réussir à rester en lien. Et si, par exemple, une femme, si elle a décidé que c'est terminé, c'est terminé. Puis c'est là que l'homme réagit souvent et qu'il veut rester. Il y a plein de dynamiques différentes.
Vous constatez ça, Cécilia Como?
Oui et non. Oui, j'entends très très bien ce que Claude dit, mais j'ai quand même beaucoup de femmes qui sont encore sur un mode un peu infirmière et qui se soucient beaucoup de l'état d'esprit. Alors, comme me disait Camille, a fortiori s'ils ont des enfants, elle est très concernée par l'état d'esprit du papa qui va élever ses enfants souvent à mi-temps avec la maman. Je voulais juste signaler que la haine, au-delà de tout ça, est un lien. C'est une manière de rester en lien. Quand j'entends Paula Dilès et Valérie Lemercier, c'est un lien même de s'insulter.
Camille Rocher.
Oui, ça c'est vrai que dès qu'il y a de la colère, il y a du lien. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il faut aller en thérapie à ce moment-là, parce que sinon on va jamais s'en dépêtre, parce que il y a des bénéfices en fait à la colère. C'est ça qu'il faut comprendre de cette haine. Il y a du bénéfice.
Quel bénéfice ?
En fait, ça peut être le bénéfice du lien, ça peut être... Il faut vraiment savoir, et ça, j'insiste toujours, qu'il y a souvent des réactivations. Ça peut être des réactivations traumatiques, ça peut être aussi tout simplement, dans le couple, ce qu'on attend, c'est de voir ce que tu vas faire de moi, ce que tu génères de moi. Et en fait, souvent, il y a une réactivation de ce que je suis là et que je ne voulais pas être. Tu m'obliges à être ce pourquoi j'ai lutté à ne pas être. Et souvent, la séparation, quand petit, je me suis toujours dit, moi, je ne me séparerai pas, moi, ce ne sera pas conflictuel, que j'ai la sensation d'avoir tout fait pour que ce soit pas conflictuel et que l'autre m'impose, j'ai la sensation que l'autre m'impose, parce qu'évidemment, il y a une co-responsabilité aussi. Là, ça devient très délicat parce que tout à coup, je t'en veux de faire de moi ce que je ne voulais pas être. Et tant qu'on n'a pas travaillé cette part-là, on projette à l'autre toute la responsabilité et c'est là où la haine me permet de ne pas me poser ces questions-là.
Claude Parizeau, vous l'avez bien dit, avant de devenir éventuellement ami avec son ex, il faut peut-être prendre du temps pour se reconstruire. Quelles sont les étapes de cette reconstruction afin de digérer, de métaboliser la rupture ?
Déjà, le temps. Il y a des étapes du deuil, hein, le déni, la colère. Puis elles sont pas toujours dans ce même ordre-là. Mais moi, il y a un truc qui marque vraiment ce que je viens d'entendre. C'est, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est le fait de nécessité d'aller en thérapie ou se faire accompagner, parce que sinon on va projeter sur l'autre et on va reproduire les mêmes choses dans toutes les relations, et malheureux, en tout cas dans ce que j'observe, c'est pas souvent, notamment chez le masculin, je veux pas stigmatiser parce qu'il y a aussi des raisons où ils ne veulent pas, s'il n'y a pas de remise en question, on va reproduire exactement la même chose après, et donc ça, pour moi, ça c'est quelque chose de évident à travailler, quoi.
Et sur ce temps de la reconstruction, Cécilia Como, de ce temps pour digérer, de métabolisation de la rupture, avant d'éventuellement devenir
amie. Oui, il faut fermer une porte, mais c'est vrai que c'est surtout que pour, je pense, atténuer la colère ou ce qu'on appelle la détestation, enfin la haine de l'autre, je pense qu'il faut surtout sortir de la position de subir. Moi, je vois que ce qui est extrêmement pénible pour les patients ou patientes et qui ont été quittés, c'est cette posture de dire je subis, j'ai rien choisi, j'ai le contrôle de rien et c'est en train de se dérouler sans que je puisse avoir un peu les mains sur les boutons. C'est vraiment de sortir de cette position. Et pour sortir de cette position, je dis souvent, prenez un peu de contrôle, même très très peu. Par exemple, resituez votre responsabilité dans tout ce qui vient de se passer, même si c'est 2%, c'est quand même 2% à travailler, à réfléchir. Replacez bien votre histoire dans le temps et dans le contexte, parce que quand on est à après, il y a un biais de négativité très fort qui fait qu'on examine ce qui s'est passé pendant l'histoire, mais à l'aune des émotions qu'on a aujourd'hui. Et aussi d'arrêter d'être dans le passé, d'être dans le présent. Ce qui est fait est fait. Et surtout, surtout de bien s'interroger sur la colère, parce que franchement, à 99%, la détestation de l'autre est une détestation de soi. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement en colère vis-à-vis d'eux. Alors, ils considèrent qu'ils s'en veulent, ils ont trop donné, ils ont accepté ce qu'ils n'auraient pas dû accepter, ils ont pardonné là où ils n'auraient pas dû pardonner. En fait, leur bilan, c'est que le retour attendu de cette relation n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils ont donné. Donc, c'est souvent de leur dire, rappelez-vous pourquoi vous aviez forcément de bonnes raisons. Mettez pas tout maintenant à la poubelle comme si tout ça n'avait aucune importance.
Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles, quel est le menu de vos questions toujours pertinentes ?
La haine est-elle une étape constitutive d'une rupture et varie-t-elle selon divers paramètres comme la présence, on l'a dit, ou pas d'enfants et le vécu ou pas d'une nouvelle relation ?
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psychiatre maison qui a aussi été thérapeute de couple. Hein.
Ah ouais, c'était très dur. Très très dur.
C'est ça, lâché.
C'est ce qu'il y a de plus dur.
Le menu des choses vues.
Oui. Ben, le menu des choses vues, vous avez du mal à ne pas haïr votre ex, j'ai la solution.
Oula, on va écouter ça.
Épictète et Claude François vont vous montrer la voie.
Épictète et Claude François. Absolument. Eh bien dis donc, on attend ça avec impatience.
Grand bien vous fasse.
Bon, alors je t'avertis, hein. J'ai décidé de pourrir la vie de mon ex. Je veux qu'à partir de maintenant, chaque minute de sa vie soit une minute de trop pour lui. Je veux transformer son quotidien de petit expert comptable de merde en enfer.
Sur France Inter.
Est-il possible de ne pas haïr son ex et de devenir ami, hein ? Le monde se divise en deux, celles et ceux pour qui il est impossible de devenir ami. Et les autres, nos expertes et experts, Cécilia Como, Camille Rocher et Claude Parizeau. Écoutons un extrait de L'amour flou de Romane Boringer et Philippe Rebaud.
Il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. Un immeuble neuf, deux plateaux nus en béton qu'on va acheter et on va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants.
Les enfants ne seront pas séparés de leurs parents.
Non, ils vont être au milieu. On n'est pas séparés de leurs parents.
Mais comment
les enfants ne vont pas être séparés de leurs parents.
Tu ne peux pas te séparer comme ça, d'accord ? Ce n'est pas normal en fait. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin. Tu vas en faire un coloc.
Ce n'est pas normal, Cécilia Como.
Honnêtement, dans l'absolu, je trouve l'idée géniale. franchement.
Dans l'absolu.
Quand elle le raconte comme ça, je me dis, mais voilà, c'est magique, c'est parfait. Après, dans le vécu, dans le concret, dans le quotidien, je pense que ça peut être extrêmement compliqué, ça peut être aussi troublant pour les enfants, au sens où, bah, dans la vie, de manière générale, c'est vrai pour la vie, c'est vrai pour la biologie, c'est vrai pour les relations. S'il y a un début, il y a une fin. Voilà, il y a des portes qui se ferment. Ça nous apprend aussi, les portes qui se ferment. Enfin, c'est supposé aussi nous apprendre où on a assez de résilience pour apprendre à en ouvrir d'autres. D'ailleurs, par rapport à la question, est-il possible de ne pas haïr son ex ? En réalité, franchement, et les gens, la haine, si haine il y a, elle perdure pas. On est assez résilient. C'est vrai que les premiers temps, il peut y avoir beaucoup de colère. De manière générale, ça ne dure pas. Là, quand ça dure, ça interroge, en fait. Ça interroge sur l'histoire de la personne, sur ce que ça a réveillé, ce que la porte que ça a ouvert et que ça n'a pas refermée, qui en général est effectivement une porte sur l'histoire infantile. Quelle blessure c'est venu, je dis souvent, c'est comme le gong, en fait, les gros gongs en Asie, c'est venu en écho réveiller une blessure précédente. Souvent, c'est une blessure assez narcissique d'estime de soi. Ça, Christophe en parlerait mieux que moi sur l'estime de soi. Je pense que les gens, voilà, ont ce sentiment de je ne suis pas aimable, je ne suis pas suffisamment intéressante pour rester la préférence de l'autre.
Christophe André.
Ouais. Ben, la haine, effectivement, c'est à la fois un lien et une souffrance. Et Cécilia Como disait que c'était rester en lien avec l'autre, mais c'est vrai que c'est un lien très fort, mais un lien focalisé sur le négatif. On ne voit plus que ce qui est, que les turpitudes, que les défauts de l'autre. On ne voit plus aussi, on n'a plus que le souvenir on repart en quête de petits indices. Oui, mais finalement, j'aurais dû me méfier de ceci, de cela. Quand le voile de l'amour se retire, on se focalise sur ce qui n'allait pas. C'est une souffrance aussi, une souffrance forte pour soi, et puis du coup c'est une souffrance qu'on a envie de faire rejaillir sur l'autre, et puis c'est un symptôme. Effectivement, c'est un symptôme. Quand la haine dure, la petite bouffée de haine, quelques heures, quelques jours, pourquoi pas, mais quand elle se prolonge, pour un psy, c'est toujours le symptôme, et on va aller chercher pourquoi ça dure aussi longtemps.
Camille Rocher.
Il ne faut pas oublier qu'à la base, le couple se construit aussi sur l'illusion d'une réparation narcissique. Et donc, on a vu chez l'autre ce que j'allais réussir à faire de toi et ce que tu allais réussir à faire de moi qui vont me permettre d'aller résoudre les blessures que j'ai, les souffrances, les failles que je peux avoir. Donc en fait, quand l'autre se sépare, il y a aussi un échec de cette fonction thérapeutique du couple où non seulement je souffre parce que je suis de nouveau face à mes blessures narcissiques, mais en plus, je n'ai pas réussi à faire de toi ce que j'aurais voulu. Évidemment, tout ça se fait inconsciemment, hein, on ne se le dit pas consciemment, mais c'est ce qui se joue dans ce lien amoureux, c'est toute cette projection. Donc, on se retrouve face à ces blessures narcissiques, et c'est en ça où il y a un vrai travail à faire pour ne pas repartir directement sur Tinder, Mythic et tout ce que vous voulez, et finalement recommencer en projetant sur une nouvelle personne, de nouveau cette réparation qui, en fait, ce que je pense vraiment, c'est que ce deuil doit servir à s'interroger sur pourquoi ce choix amoureux, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et ce que je dois faire, moi, pour arrêter de projeter ça sur l'autre.
Claude Parizeau.
Oui, et la haine est d'autant plus forte si on n'a pas de conscience de ce qui se passe et de nos blessures d'enfance. Et c'est pour ça que c'est indispensable d'aller explorer aussi pourquoi on a choisi un partenaire, pourquoi on ne l'a pas choisi. Et pour moi, et s'il y a par exemple conscience et si on prend responsabilité, je reviens à ça, s'il y a plus de conscience, ben c'est beaucoup plus facile de sortir de la colère et de la haine.
Question de Marie-Laure Sonnenschein de Femme Actuelle.
Oui, Camille Rocher, vous l'évoquiez à l'instant. Vous préconisez même une période de célibat. Vous dites qu'il faut vraiment un temps, une grande latence pour aussi retravailler sur soi avant d'enchaîner une nouvelle relation qui serait une sorte de pansement finalement, où on aurait gardé peut-être ce qui n'a pas fonctionné, ses travers, des blessures narcissiques. Donc vous dites stop, on laisse un véritable temps de repos, finalement.
Exactement. Alors, je ne suis jamais écoutée, mais Mais je tiens à dire que malheureusement, le nombre de relations qui redémarrent. Et en fait, déjà, cette simple question de se dire si là, demain, mon ex revient, est-ce que je largue l'autre pour revenir avec mon ex ? C'est une vraie question déjà. Ça veut dire que le deuil n'est pas fait, ça veut dire que je n'ai pas compris ce qui n'a pas fonctionné, ça veut dire que j'ai encore un espoir. Donc en fait, l'autre est plus une relation narcissique qui vient m'aider, en effet, un pansement, plus qu'une vraie relation où je vais aimer l'individualité de l'autre, ce qui n'est pas moi et que j'admire chez l'autre avec du recul. Donc tant que je suis dans ma souffrance, je ne vais chercher chez l'autre que ce que je n'avais pas dans la relation d'avant. Donc j'en oublie aussi tout ce que j'avais, qui en fait était essentiel, et que j'ai la sensation que ce n'était en fait pas la priorité. Et c'est là où pour moi ça nécessite plusieurs mois de célibat, où je vais souffrir, je vais accepter de me retrouver seule, je vais peut-être plus nourrir l'amitié, ça c'est hyper important, je rejoins Cécilia là-dessus. Pour moi on a besoin d'un réseau amical, c'est des relais affectifs qui sont très importants, et de pouvoir vraiment réfléchir sur ce que je recherche d'une relation et en effet les schémas répétitifs dans lesquels ne pas retomber.
Cécilia Como.
Oui, alors moi j'ai beaucoup de mal avec le « il faut ». Mais ça doit être mon âge. Je pense qu'à l'âge où je suis arrivée...
Il y a un moment, faut dire les choses. Voilà,
c'est bien parce que vous complétez très bien toutes les deux.
Ça, voilà, à mon âge, c'est les « il faut », ça m'interpelle. Donc en fait, les injonctions sur ce que devraient faire les gens, ce qui irait mieux, finalement, c'est assez théorique. Je pense qu'il y a des gens qui repartent dans une relation amoureuse pour une raison d'ailleurs. Encore une fois, c'est pour rappeler ce que j'ai dit. La relation précédente, en fait, pour eux... est fini depuis longtemps. Ils sont restés ensemble, mais émotionnellement, amoureusement, psychiquement, c'est terminé. Finalement, le deuil, il a eu lieu pendant la relation. Et donc, quand ils rencontrent quelqu'un d'autre, même si c'est pendant, d'ailleurs, la relation, et partent pour quelqu'un d'autre, ils sont prêts. Donc, voilà, je pense que c'est... la réalité est tellement complexe qu'il n'y a pas une seule ligne.
Claude Parizeau.
Oui, c'est pas des... Il faut... Moi, je vais donner une anecdote vraiment personnelle, puisque... Et ça, ce que Camille disait résonne beaucoup. Dans ma formation que j'ai faite aussi au Québec, on dit quand on rentre à l'université qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Mmh. Et moi, personnellement, je n'ai pas fait deuil pendant des années. C'est-à-dire que je passais d'une relation à l'autre pendant des années. Et j'ai pu comprendre que c'était pour éviter de sentir la douleur. Et je reproduisais systématiquement les mêmes choses. Et c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de temps et ce n'est pas facile. Je veux dire, même quand on chemine beaucoup, de rester longtemps. C'est-à-dire que des fois, moi, mon cœur, j'étais un cœur d'artichaut et il pourrait s'emballer, mais c'est tout un travail de rester tranquille et de rester célibataire parce que c'est là qu'émerge vraiment une ouverture. C'est comme si ça faisait de la place à l'intérieur pour aimer vraiment. Et voilà, c'est juste. Ça me fait penser à ça quand Camille
parle. Peut-être qu'il faut quand même. Là, je rigole.
Oui, bah, il faut. Je dis pas il faut, mais encore pour moi. Je sais pas s'il faut, mais.
Christophe André, comment faire pour ne pas laisser la colère, le ressentiment nous bouffer à petit feu 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans après la rupture ?
Waouh ! Ça, c'est tout un roman. Oh, mais c'est toujours la même question. C'est-à-dire, d'abord, il y a deux questions, quoi. C'est pourquoi ça dure aussi longtemps, finalement ? Qu'est-ce qu'elle apporte dans ma vie ? Qu'est-ce qui me manque pour que je garde ce lien de colère, de focalisation sur cette personne qui est sortie de ma vie il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et dont moi et elle savent que c'est pas bon d'y rentrer. Et puis, deuxième question. Comment ça se fait que la vie ne m'ait pas permis de passer à autre chose ? Pourquoi la vie n'est pas venue à mon secours ? En général, dans nos blessures, sauf si elles sont épouvantables et traumatiques, là, effectivement, il faut faire le détour par la case thérapie, mais la plupart du temps, la vie est réparatrice, mais à condition qu'on lui permette de nous réparer. Et donc, qu'est-ce qui fait que ma vie ne m'a pas offert d'autres sources de bonheur, de plaisir ? Pas forcément de l'amour tout de suite, parce que, effectivement, ce que disait Claude Parizeau est important, ne pas vouloir réparer tout de suite les blessures d'amour par une autre relation amoureuse. Ça, on ne fait que qu'entasser des problèmes non résolus ou des vulnérabilités non résolues. Mais pourquoi la vie ne m'a pas guéri, au fond ? Moi, je trouve que même quand on est psy, on sait que la vie guérit beaucoup de nos patients. Tous ceux qui ne viennent pas au cabinet, assez souvent, sont guéris par la vie. Et là, la colère dure, la haine dure. Quelque chose est bloqué en moi qui ne permet pas à la vie de faire son boulot.
Et au fond, Cécilia Como, Camille Rocher, Claude Parizeau, pourquoi les ex continuent à hanter nos esprits ? Pourquoi ne peut-on pas s'empêcher d'y penser, même quand on a entamé une nouvelle relation ? Qu'est-ce qui se joue ? Pourquoi ces fantômes du passé continuent à nous hanter ? même quand on pense s'être reconstruit dans une nouvelle relation.
Je pense que le lien très profond, dans ce lien se joue aussi une volonté de maîtrise. Je le vois par rapport aux réseaux sociaux, où c'est très compliqué de ne pas aller voir sur les réseaux où en est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est heureux ? Ça, c'est la vraie question. Mmh. En fait, on préférait qu'il ne soit pas super heureux et que je sois restée, qu'il regrette, que je sois restée la personne pour lui. Et je crois qu'il y a vraiment...
C'est une sorte de joie mauvaise, Schadenfreude bien connue.
C'est en fait l'illusion que je suis la meilleure personne et c'est, bon alors là pour le coup c'est très très narcissique hein, mais c'est un besoin de contrôle qui fait que on continue à ruminer ça et à nourrir ça.
Claude Parizeau.
Oui, très souvent c'est aussi comme le disait tout à l'heure Cécilia, c'est aussi la différence quand on est quitté hein, on parle vraiment. Oui. Et quand on est quitté en fait ça vient réveiller, moi je parle souvent d'enfant intérieur, moi ça me parle, je le sens même là, et c'est l'enfant, le fait d'avoir été quitté, ça peut réveiller des blessures d'abandon, de rejet, et c'est ça qui reste, et il y a quelque chose comme, on le vit comme un échec, qu'on peut le vivre comme un échec, alors que c'est une expérience et c'est juste de se détacher de ça, mais c'est facile à dire.
Cécilia Comeau.
Oui, parce que je pense que ça vient en miroir avec les raisons pour lesquelles on aime être amoureux, parce qu'on est choisi, parce qu'on est la préférence de quelqu'un, entre beaucoup de personnes, c'est moi qui l'a choisi, ça nous narcissise énormément, je pense que c'est comme ça pour tout le monde et depuis toujours. Et là, finalement, c'est le clap de fin. C'est d'un coup, cette préférence, ce choix, ce n'est plus moi. Et il y a effectivement quelque chose qui s'écroule sur mais quel est donc mon intérêt versus les autres, s'il a préféré ou si elle a préféré aller vers quelqu'un d'autre. Cette colère-là empêche d'ailleurs souvent de se poser les questions sur, encore une fois, comme disait Christophe, quel est mon rôle dans tout ça ? Comment et une chose qui pourrait faire du bien aussi, c'est de dire aux gens vraiment d'avoir confiance en eux. Oui, le thérapeute, le meilleur thérapeute, c'est le temps, mais de se rappeler qu'on fait les choses de manière finalement au moins sensée pour notre inconscient, même si ça nous paraît insensé sur le coup, et donc de se donner un peu de crédit sur ce qui s'est passé avant.
Bonjour Evie.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Haute-Loire. Mm-hmm. Est-il possible de ne pas haïr son ex ? Vous répondez que c'est possible, et c'est même possible de devenir ami avec lui.
Ah, complètement. Ouais. Complètement. En fait, nous nous sommes séparés en 88. Mm-hmm. Nous avions un fils qui avait 2 ans à l'époque. Mm-hmm. Et les premiers mois ont été difficiles, alors surtout pour mon ex-mari, parce que l'initiative de la rupture venait de moi. Et donc, il a souffert au départ, j'ai compris, et j'ai patienté. Et en fait, j'habitais un quartier pas très loin, mmh. et au fil du temps, nous sommes devenus proches et très amis. Mmh.
Comme des frères et sœurs ?
Complètement, complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, il a une compagne avec qui il vit depuis des années. Mmh. Et je suis également très, très amie avec elle. Mmh. On partage des moments, on part en vacances ensemble, on fait de la moto ensemble.
Et puis surtout, il s'est passé une chose assez extraordinaire. Evie, vous nous l'avez raconté au Standard.
Oui, oui, oui. En fait, il se trouve que je suis tombée malade et en 2022, j'ai dû aller en dialyse. Et excusez-moi, ça m'émeut.
Allez-y, Evie, prenez votre temps.
Et en fait, mon ex-mari et sa compagne n'ont pas supporté de me voir en dialyse. Ils sont allés tous les deux faire un test à l'hôpital. Et il s'est avéré que mon ex-mari était compatible. Et donc, j'ai pu être greffée. J'ai pu recevoir un rein. Mmh. Et voilà, en fait...
Vous vivez avec le rein de votre ex devenu un ami, c'est absolument magnifique.
Oui,
Cécilia
oui.
Comeau.
Bonjour Evie. Oui, mais son ex demeure le père de son enfance, ce qui est déjà un lien inaltérable, car ce sera comme ça pour toujours. Et je, comme je reprends ce que disait Christophe, c'est quand le processus de la vie fonctionne correctement, effectivement, on est capable de se rappeler déjà pourquoi on ne sait plus, en dehors de pourquoi on a été attiré érotiquement l'un envers l'autre, pourquoi on ne sait plus. Et puis je me demandais aussi si c'est pas lié à un au motif des ruptures. Il y a des motifs qui sont plus difficile pour la suite que d'autres. Deux, de la qualité aussi de la rupture, ça a l'air peut-être un peu antinomique, mais comment est-ce qu'on se sépare ? Est-ce que c'est dans le respect et l'intégrité de l'autre ? Et trois, l'intelligence des gens aussi.
Christophe ?
Ouais, c'est très émouvant. C'est une belle histoire. Hein. C'est carrément un scénario de film ou de roman. Et après, c'est vrai qu'alors parfois, nous les psys, on est tellement tordus qu'on dit oui, mais alors elle est redevable à son mari, il lui a sauvé son ex-mari, il lui a sauvé. Là, il y a des histoires comme ça où on dit mais quand même le poids de la gratitude. Mais là, ça se passe incroyablement bien. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi les leçons de la vie. La vie écrit des scénarios incroyables.
Camille Rocher.
Je crois vraiment que les nouveaux conjoints ont un rôle énorme, parce que là, on ne parle pas de la nouvelle compagne, mais enfin, si on en, Evie nous en parle, mais elle a accepté aussi ça. Et souvent, c'est l'arrivée du nouveau conjoint qui vient souvent mettre la zizanie, quoi. C'est-à-dire que là où tu pouvais être amie, en fait, moi, je te demande d'arrêter vraiment parce que je veux avoir ma place. Donc là, on peut louer l'humilité de cette femme qui accepte ce lien-là et qui en effet a cette intelligence relationnelle.
Oui. J'ai envie de reprendre ce que disait Cécilia. Oui, s'il y a respect et intelligence, ces deux choses, ces facteurs-là sont indispensables. Et puis là, on peut sentir dans son témoignage, pour moi, c'est de l'amour qui existe encore entre eux, sauf qu'il s'est transformé. L'amitié, c'est aussi de l'amour. Il n'y a pas de sexualité, c'est pas les mêmes relations, mais c'est de l'amour. Et pour moi, ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est une histoire de roman.
Un dernier mot, Evie.
Oui. Écoutez, c'est vrai que tout ce que vous avez dit, c'est complètement ça. On a vraiment un lien très très fort.
Merci beaucoup Evie, merci et je vous souhaite une longue vie avec ce rein et une bonne santé. Merci à vous de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Allez, il est déjà l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Christophe André.
Ah, on se sépare souvent dans une vie de couple aujourd'hui. Hein. Un couple marié sur deux, avec un pic vers la sixième année. Bon, hein. Et chez les couples non mariés, donc à l'essai, les chiffres sont bien plus élevés. Dans tous les couples d'une vie humaine, les séparations sont donc la règle, plus que l'exception. Alors, on a intérêt à savoir les gérer et les digérer, ces séparations. Même si on se sépare pour de bonnes raisons, ce n'est pas si facile car il y a nos émotions. Et oui, logique, plus il y a eu d'affection ou de passion, parfois plus il y aura d'émotions à la séparation. Surtout ces trois-là, tristesse, inquiétude, colère. Tristesse parce que c'est la fin d'une belle histoire ou d'une histoire qui aurait pu être belle. Inquiétude parce qu'on se demande ce qu'on va devenir, si on va arriver à retrouver quelqu'un, etc. Et colère parce que quand même, on en veut à l'autre. Des trois, la colère est la plus compliquée à traverser. La tristesse et l'inquiétude, ça nous regarde. Elles sont la preuve que le lien est rompu. La colère, à l'inverse, montre que ce lien n'est pas rompu. L'autre n'est plus là physiquement, mais c'est pire. Il est là mentalement. On pense à lui tout le temps, on lui veut du mal. Il y a 50 nuances de haine. Tous les degrés existent. Mineurs, comme le ressentiment ou la rancune. Majeurs, comme la colère ou la détestation. La haine, sous tous ses visages, c'est une servitude. On reste dépendant du souvenir de l'ex et on se fait du mal avec ça. C'est ce que le poète latin Terence appelle dans une de ses pièces, d'un terme grec un peu savant, un peu pédant, Eoton timorum enos, l'impulsion à se punir soi-même. On est l'organisateur et l'acteur principal de ces souffrances et de leur chronicisation. Et on s'en sort comment ? De la haine ? Eh bien, on peut en sortir par le haut, en pardonnant, en s'expliquant, puis en s'occupant d'écrire le reste de sa vie au lieu de s'acharner à raturer ce qui s'est mal passé. On s'efforce d'appliquer les conseils des manuels de développement personnel sur le couple, genre à réussir sa séparation et tout ça. On peut en sortir par le bas, par le mépris. C'était un pauvre type, une pauvre fille. Ou par la vengeance. Je vais lui montrer à cette gueuse, à ce chien galeux, ce qu'il en coûte de m'avoir fait perdre 5 ans de vie à ses côtés. On peut aussi choisir la voie de l'oubli.
Tout le monde demande si je t'aime encore et si je pense encore à toi. Il me demande de parler de mon cœur, si triste depuis de longs mois. Je mens un peu dit peu et je dis fièrement, cette histoire est finie. Mais je dois avouer que certains soirs, peut-être, parfois j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit.
C'est pas l'amnésie, hein. Attention, l'oubli, c'est pas l'amnésie. Dans l'amnésie, on efface. Dans l'oubli, on se souvient. Mais à volonté, quand on rappelle le souvenir, le reste du temps, il est stocké au calme, loin de notre conscience. On oublie, mais on se souvient quand même de la leçon pour ne pas répéter les mêmes erreurs lors des prochaines aventures ou dans le cas où l'ex reviendrait gratter à la porte. Dans la haine, pas d'oubli. On s'empoisonne avec son chagrin. On se détruit soi-même en détestant son ex. Mais la sagesse, plutôt que se détruire, serait plutôt de s'instruire de son chagrin. C'est la voie que nous enseigne le philosophe Épictète. Accuser les autres de ses malheurs, cela est d'une personne ignorante. N'en accuser que soi-même, cela est d'une personne qui commence à s'instruire. Et n'en accuser ni soi-même ni les autres, cela est d'une personne déjà instruite. Personnellement, quand des malheurs m'arrivent, j'en suis au stade du milieu. Je m'efforce de n'accuser que moi. Et vous?
Je vous dirai ça à Aurantène, mon cher Christophe. Cécilia Como qui a pris beaucoup, beaucoup de notes pendant votre chronique.
Je ne suis pas. J'aimerais faire un commentaire composé. C'est tellement joli ce que dit Christophe André. Je me disais juste que, effectivement, on dit bien du mal de la colère. Et je me rappelais quand même que j'ai eu des patients ou des patients totalement effondrés. Et je leur demandais, où je leur souhaitais d'être en colère, finalement. Parce que la colère, c'est aussi une manière de lutter, de rester debout contre l'effondrement. Ça vient un petit peu, essayer d'empêcher finalement la dépression d'envahir. Donc c'était juste aussi pour rappeler qu'il y a, que c'est une phase. C'est ça la difficulté. On entre dans une phase, il faut absolument savoir en sortir.
Tous les épisodes des choses vues de Christophe André sont à retrouver sur l'appli Radio France. Vous pouvez également retrouver ses vidéos sur les réseaux sociaux.
Bien vous fasse.
Julien Doré, je tenais à vous dire que je trouve ça admirable cette façon que vous avez de continuer à avoir la beauté dans vos relations d'amour terminées, parce que moi, mes ex, je leur chie dessus. J'aimerais être ce genre de personne qui dit on s'est aimé, même si c'est fini aujourd'hui, il faut garder le meilleur des souvenirs de cette histoire passée et tout. Mais j'avoue que j'ai plutôt tendance à dire tu me quittes, mais meurs
sur France Inter.
Est-il possible de ne pas haïr son ex et de devenir ami? Le monde se divise en deux, celles et ceux pour qui il est impossible de devenir ami, et puis il y a les autres. Alors pour certains, il faut que la coupure avec son ex soit nette. Pour le psychanalyste Saverio Tomasella, je le cite, les ex qui se la jouent détendus et restent en contact n'entament pas vraiment le deuil, et d'ajouter, les ruptures sont violentes car elles réactivent l'une des peurs primaires de l'être humain, celle de l'abandon. Il faut couper avec son ex de façon ferme et définitive. Camille Rocher, qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle que vous êtes psychologue et thérapeute de couple.
Il faut, oui, merci.
Cécilia Como est catastrophée. Oui. Je vais d'abord laisser la parole à Camille Rocher.
Non, écoutez, je crois qu'il faut quand même mettre des nuances dans le sens où on l'a dit et je le redis quand même, quand il y a des enfants, pour le coup, il ne faut pas. On ne peut pas. Enfin, les enfants ont besoin de ce lien et je crois qu'il faut qu'on ait l'intelligence.
S'il y a des enfants, évidemment.
Oui, s'il y a des enfants, pardon, mais c'est vrai que c'est souvent... Il y a souvent beaucoup, beaucoup de colère qui est due au fait que tu me voles mes enfants. Et ça, il y en a beaucoup qui ne supportent pas ça. Ou tu me remplaces en tant que mère ou en tant que père, tu amènes quelqu'un d'autre qui va s'occuper de mes enfants. Et ça génère une injustice qui est à l'origine souvent de la colère, qui est très difficile et qui peut prendre beaucoup de temps avant d'être travaillée. Pour être travaillée. Et donc, je crois qu'il y a quand même... encore une fois, quand il n'y a pas d'enfant, peut-être qu'il y en a un des deux, et souvent c'est le cas, on est rarement tous les deux d'accord pour ce que l'on veut. Donc s'il y en a un qui voudrait l'amitié mais l'autre ne le veut pas, la réflexion est importante et je privilégierais quand même celui qui ne peut pas continuer cette amitié. En revanche, quand quand il y a un couple parental, là, ça se travaille et couper le lien est destructeur pour les enfants.
Cécilia Como, à la fois psychanalyste et sexologue.
Bah, je voulais dire, par rapport, vous avez prononcé le mot abandonner. Alors souvent les gens me disent ça, hein, et je me dis, ça m'interpelle toujours ce terme. Je me dis, on abandonne un projet, mais on n'abandonne pas quelqu'un. On rompt sur une alliance, sur une relation, sur une promesse. Ensuite, sur les parents, bah, c'est même pas une question de rester amis. Je dis souvent, c'est une question d'être responsable. Vous êtes adulte, vous avez fait des enfants, vous ne pouvez pas leur infliger les tourments qui sont les vôtres. Donc, moi, je ne suis pas convaincue qu'il faille être amie avec son ex. Je pense que, encore une fois, j'entends souvent les gens vouloir ça pour un peu tamponner la douleur que pourrait leur infliger la rupture. Je pense simplement qu'il n'y a pas besoin d'être amie pour respecter l'autre, pour respecter son intégrité et pour ne pas lui faire du mal, en fait.
Claude Parizeau, vous êtes thérapeute de couple.
Oui, c'est exactement ce que dit Cécilia. Pas obligé d'être ami, mais juste respectueux et aussi de prendre conscience que si on se parle mal et si on ne réussit pas sa séparation, on transmet ça, c'est des enfants qui portent la charge inconsciemment. Parce que la communication, c'est quand même 93% du non-verbal en plus, même si on se parle pas mal. Mais les enfants sont des éponges. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de couples qui viennent pour bien se séparer. Et ça me touche quand il y a de la conscience. Parce que c'est indispensable, surtout quand il y a des enfants.
Dans cette période de deuil du couple, que faire quand l'ex revient à la charge, souhaite conserver des relations, rester amis et qu'on n'est pas prêt? Alors que pour l'ex, hein, qui veut devenir ami, bah, c'est vital hein, de maintenir le lien. Qu'est-ce qu'on fait quand nous, on n'est pas prêt? En face, on a quelqu'un qui veut rester ami. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas envie, tout simplement. Camille Rocher.
Bah, je crois qu'il faut... je ne sais plus quoi dire du coup maintenant. À mon avis, il est important de travailler le cadre. Non, je crois que c'est important d'arriver à élaborer ensemble un cadre qui nous permet de nous sentir libres l'un vis-à-vis de l'autre. Et parfois, le cadre est trop flou. Justement, on aimerait quelque chose de spontané. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Moi, je voudrais que ce soit spontané. Si tu veux prendre les enfants parce que tu es dispo, il n'y a pas de problème, machin. Et la réalité, c'est qu'en fait, ça ne m'arrange pas ou ça titille des choses chez moi. Et je pense que là, exprimer vraiment ce que je ressens, exprimer mes émotions et parfois faire un peu preuve de fermeté pour mettre un cadre dans lequel je me sens respectée et qui me permet d'être en relation avec toi me semble important.
Alors comment faire pour qu'une amitié avec son ex repose sur des fondations saines? Comment par exemple ne pas se laisser envahir par la jalousie, des sentiments envieux quand l'autre est à nouveau en couple? Comment faire? Et puis surtout on peut avoir envie de l'autre aussi, hein, tout simplement. Hein. Comment faire
envie de l'autre?
Envie, oui, sexuellement. On se dit, voilà, du désir.
Oui.
Je pense c'est quoi les fondations saines pour rester vraiment amis avec son ex?
Ah ben je pense que déjà, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement érotique unilatéral. Si vous en avez un qui désire, l'autre qui désire plus, ça va un peu compliquer les relations. Je pense
la jalousie aussi de l'autre couple.
Oui, mais la jalousie, ça revient à ce que disait Christophe André. Ça nous interroge, nous, qu'est-ce qui fait qu'il m'est insupportable que l'autre m'ait préféré quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit tout en direct. Et les emmener dans un plus bel endroit que là où il m'emmenait, ou les emmener exactement là où il m'emmenait. Donc, c'est, la jalousie va nous interroger, nous. Mais je pense que, dans ce que vous parliez sur un peu l'intrusion de l'ex qui voudrait absolument, c'est au même titre que dans n'importe quelle autre relation. Ça s'appelle poser des limites. C'est extrême, savoir dire non. Voilà, mais là, on entre dans un autre chapitre, justement, de comment est-ce qu'on arrive face aux autres à poser qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas.
Et nous accueillons, pour terminer cette émission, Olivier, qui habite dans le sud de la Sarthe. Alors vous restez amis avec vos ex, Olivier?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ce que je racontais à votre collaboratrice, bah, je vous donne un exemple. L'année dernière, au premier de l'an, j'avais mes quatre ex-compagnes qui étaient là et ma compagne. Voilà, et bah, tout le monde, ça s'est très bien passé. Je voudrais préciser aussi une chose, c'est que je n'ai pas eu d'enfant avec ses ex-compagnes. Et je pense que je ne suis pas du tout ami avec la mère de ma fille. Donc ça, je pense que le fait de ne pas avoir eu d'enfant, ça joue beaucoup. Et puis...
Et ça se passe bien.
Ça se passe très bien.
D'accord.
Alors j'ai juste ici une petite anecdote très récente. Je viens de me faire opérer il y a 15 jours et j'ai revu une brancardière qui était mon ex-compagne avec qui j'étais il y a 16 ans et je vais manger chez elle ce midi.
Eh bien c'est une jolie anecdote. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé. Tiens, une toute dernière question de Marie-Laure Sunshine. Toute dernière.
Ouais, Cécilia, comment on a employé indifféremment la haine, la détestation? Et vous écriviez, hein, je vous lis. Hein. Je ne dis pas que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez écrit. Vous avez
c'est une archiviste, attention.
Voilà. Hein, si la haine nous consume mais nous assèche, la détestation peut avoir des effets bénéfiques. Elle aide à relever la tête, à prendre de la distance et à surmonter la douleur.
C'est la colère, c'est les bienfaits de la colère. Souvent, je dis, ne jetez pas la colère aussi rapidement. Elle peut vous aider, en fait, à traverser ça et pas vous effondrer. Alors que la haine, effectivement, c'est vraiment quelque chose puissant et surtout, comme je l'avais dit, elle est contre nous au départ. Souvent, j'entends, j'ai tellement mal que je veux qu'il souffre autant que moi. Donc, le problème initial, il est à l'intérieur de moi.
Et il ne faut pas oublier qu'on s'est aimé dans le monde intimité, Dominique et Jean-Michel, deux ex en couple chacun de leur côté, disent à propos de leur relation, 30 ans après leur relation, Jean-Michel dit ceci: nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des frères et sœurs, peut-être sommes-nous insécables. C'est très beau. Et Dominique, d'ajouter ceci, j'ai l'impression que l'on ne peut pas désaimer quelqu'un que l'on a vraiment aimé.
Mais c'est vrai, c'est aussi, rappelez-vous, on s'est aimé. À un moment donné, il y a eu quelque chose de merveilleux. De s'accrocher aussi à ça, pour justement pouvoir se faire confiance, pour se dire finalement, je sais aimer, et ça, c'est maintenant une porte qui se ferme, je pourrais aimer à nouveau.
Merci beaucoup Cécilia Como, merci beaucoup Camille Rocher, et merci Claude Parizeau.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.